Oh, gloire à Dieu. C'est vraiment merveilleux. Non seulement Jésus a tout accompli à la croix, mais il dit, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un autre. Puis quand il viendra, il va prendre de tout ce qui est à moi, tout ce que j'ai fait, tout. Puis il va vous l'annoncer, il va vous le transmettre, il va le faire. Amen. Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu qui travaille dans ma vie. Amen. Merci Seigneur qui est avec nous aujourd'hui. Il est en nous, sur nous, avec nous. C'est la puissance de Dieu. Je ne sais pas jusqu'à quel point on réalise cette puissance que nous avons avec nous. Amen. Oh, gloire à Dieu. Eh bien, aujourd'hui, comme vous avez remarqué, on a préparé la communion parce qu'on va prendre la communion ensemble aujourd'hui. Et pour moi, c'est toujours, toujours quelque chose de spécial, quelque chose où on doit s'arrêter et prendre le temps de réfléchir à ce qui a été fait justement il y a 2000 ans passés, qu'il a donné sa vie. C'est très important et c'est très sérieux. Il y a des gens que j'ai connus que des fois, ils étaient malades et eux autres même, à la maison, sortaient les éléments, ouvraient la Bible, puis ils disaient, on va s'arrêter, puis on va regarder à qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. Puis ils prenaient la communion dans la parole de Dieu et ils recevaient ce qu'ils devaient recevoir. Amen. Il y a plusieurs guérisons qui s'accomplissent lorsqu'on prend la communion. Pourquoi? Parce qu'on arrête de se concentrer sur les problèmes et on commence à regarder à Dieu, à regarder son plan, à regarder à Jésus, ce qu'il a accompli. Et c'est justement, c'est ce qu'il veut, qu'on ait les regards sur lui. Amen. Parce que c'est lui qui est venu changer nos situations. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors vraiment, on va prendre le temps de s'arrêter aujourd'hui. On va regarder un verset que vous connaissez tous par cœur, je le sais, mais on va tourner quand même à Jean 10, puis je vais lire le verset 10 et 11. Et puis la parole de Dieu nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, puis détruire. » Mais Jésus, il parle, puis il dit, « Moi, je suis venu afin que, il y avait un but, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger, puis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Souvent, on va prendre ces versets-là et puis on met l'accent, moi souvent, j'ai mis l'accent sur le mot « abondance ». Non seulement il est venu pour qu'on ait la vie, mais il voulait qu'on l'ait en abondance, amen. Et puis, c'est bien de le faire parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'abondance, amen. Il n'a pas juste mis deux, trois sortes de poissons dans la mer. Il a mis tellement de sortes de poissons inimaginables que même aujourd'hui, il en trouve encore des nouveaux. C'est un Dieu d'abondance. On peut regarder à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples. La parole de Dieu nous dit justement de regarder à l'Ancien Testament et de regarder toutes ces histoires qui nous servent d'exemple. Et c'est comme des prototypes, c'est comme des exemples de qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand les Israélites, vraiment, ont sorti de l'esclavage, ils ont passé, oui, par le désert. Ils devaient apprendre à regarder à Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas fait ça, mais ils devaient apprendre normalement à regarder à Dieu. Mais Dieu, il y avait un but. Il voulait les amener dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Amen. Les prendre du moins cassé, les faire passer au juste assez pour les amener au plus cassé. Amen. Et on sait qu'on sert un Dieu d'abondance. Dieu, il est généreux, il est grandiose. Il n'a pas mis juste quelques étoiles dans le ciel. Il y a un firmament rempli d'étoiles. Lorsqu'il fait quelque chose, c'est toujours, même l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens, il dit, il fait toujours infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Alors, c'est normal de parler d'abondance parce que c'est la façon d'agir de Dieu. Si on s'attend pour un miracle, attendez-vous à plus que le miracle que vous vous attendez. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça. Il fait toujours une bonne mesure bien serrée, secouée, qui déborde. Avec Dieu, c'est plus cassé. Qui est d'accord avec ça? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais alors, c'est le Dieu du plus cassé. J'ai souvent prêché là-dessus. Mais aujourd'hui, je voulais mettre l'importance sur la vie. Jésus dit, « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. » Souvent, des fois, j'ai vu des gens, lorsque ça va mal, lorsque tout est de travers, puis ça va mal, puis ils vont dire, « C'est pas une vie, ça! » Bien, ils ont bien raison. Amen. Bien raison. C'est pas une vie. Et ce n'est pas la vie qui est venue nous donner. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie, pour qu'ils aient cette vie, puis même ils ajoutent la vie en abondance. Je veux mettre l'emphase aujourd'hui sur la vie. Il est venu pour qu'on ait la vie. J'ai appelé le titre de l'enseignement « Prendre sa vie au sérieux ». Jésus a donné. Parce qu'au verset 11, il dit, « Je suis le bon berger. » Puis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Autrement dit, quand il voit ses brebis, s'ils sont mal pris, s'ils s'égarent, s'ils ont faim, il les amène dans les verts pâturages. S'ils s'égarent, sa houlette et son bâton les ramènent. Il prend soin de ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Il est là le matin jusqu'au soir, puis il prend soin de ses brebis. Amen. Alors, vraiment, je veux parler de la vie. Et il dit, le bon berger, il donne sa vie. Et vraiment, le titre, comme j'ai dit, c'est « Prendre sa vie à lui au sérieux ». Amen. Ce qu'il a fait, c'est sérieux. Qui est mort sur la croix, c'est sérieux. Qui est descendu aux enfers, c'est sérieux. Vous savez, lorsqu'il était dans le jardin, et puis que... Il disait, « Seigneur, faut-il vraiment que je boive cette coupe? » Il ne pensait pas juste aux douleurs qu'il allait souffrir à la croix. La plus grande douleur qu'il pouvait avoir, c'est d'être séparé de son Père pendant 3 jours de temps en enfer. Toute sa vie, il a fait ce qu'il voyait son Père faire. Et maintenant, il a descendu aux enfers, il a payé le prix du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et puis, il est descendu aux enfers. Il devait se rappeler à ce moment-là toutes les choses qu'il avait vu son Père faire. Parce que pendant 3 jours, il a éclairé cet enfer-là. C'est la seule lumière qu'ils ont eue pendant 3 jours. C'est la seule lumière qu'ils vont avoir eue pour l'éternité. C'est d'être séparé de son Père. C'est pourquoi il a dit, « Lama, lama, sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que c'était la première fois, juste d'être séparé de Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dans Proverbe 8, 35, parce que là, je te préfère ma fondation, il dit, « Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Celui qui me trouve a trouvé la vie. Des fois, les gens, ils vont dire, « Bien là, vous autres, vous allez à l'église, puis vous faites les choses, puis c'est plus vivre, ça. » Non, 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 c'est le contraire. Quand on trouve le Seigneur Jésus, on vient de trouver la vie. Parce qu'il a donné sa vie pour qu'on ait la vie, pour qu'on vive. Amen. Parce qu'il voulait justement qu'on vive et qu'on ne se promène pas en disant, c'est pas une vie ça. Mais au contraire, en disant, merci Seigneur pour la vie que j'ai maintenant. Parce que j'ai la vie dans mon corps, j'ai la vie dans mes finances, j'ai la vie dans mes familles, dans ma famille, j'ai la vie dans ma descendance, j'ai la vie partout. C'est la vie, c'est pas la mort. Quand j'ouvre mon portefeuille, c'est pas mort, c'est vivant. Il y a des feuilles qui bougent. C'est la vie. Peu importe ce qui s'élève autour de moi, j'ai la vie. J'ai Jésus. Il a donné sa vie. Il est la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. J'ai sa vie en moi. Ça dit, celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient une faveur de l'Éternel. Dans la Bible Message, ça se lit comme ceci, la traduction Message. Ça dit, lorsque vous me trouvez, vous trouvez la vie réelle, sans parler des grands plaisirs de Dieu. Autrement dit, sans parler des grandes choses qui viennent avec Dieu. Amen. Le bon berger, il a donné sa vie pour qu'on vive, parce qu'il voulait qu'on vive. Alors pour moi, c'est sérieux. Amen. Et lorsqu'il dit qu'on trouve la faveur de l'Éternel, le mot faveur dans le hébreu est ceci. On trouve le bon plaisir de la vie en Dieu. On trouve la satisfaction de la vie en Dieu. On trouve les délices de la vie en Dieu. On trouve la faveur dans notre vie. On se promène favorisé. On n'est plus comme avant. Avant, je me sentais vraiment défavorisée. Mais en Dieu, je suis favorisée. La faveur de Dieu sur nous, ça veut dire que c'est plus. Si je vais appliquer pour un emploi, j'ai plus que les autres. Parce que moi, j'ai une faveur qui me suit continuellement dans ma vie. Si je vais pour acheter quelque chose, j'ai quelque chose de plus que les autres. C'est que je vais trouver faveur. Faveur. Il y a une faveur qui me suit dans ma vie. Il trouve la faveur. Ça, c'est la vie en Dieu. Amen. Moi, j'ai toujours été émerveillée. OK? Je vais prendre un petit détour, puis je vais revenir. J'ai toujours été émerveillée par des gens qui ne connaissent pas, qui connaissent Jésus comme leur sauveur, oui, qui aiment Jésus puis qui croient à l'éternité comme nous on le croit, puis ils savent qu'un jour ils vont marcher sur des rues en or, et puis qu'au ciel, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de peine, il n'y a plus rien. Puis le monde, bien des fois, ces gens-là, ils attendent juste comme rendu au ciel. Vous comprenez que c'est ça. Mais pourtant, Jésus, il a bien dit que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Mais il y a des gens, que ça m'a toujours épaté, qu'ils vont penser des fois que Dieu va amener une circonstance, une maladie, une épreuve, pour leur faire comprendre quelque chose. Parce qu'une personne sur un million, quand elle est tombée malade, s'est finalement tournée vers Dieu. Bien, ils disent, tu vois, Dieu y enseigne par ça. Puis pourtant, la parole de Dieu dit que ce n'est pas la maladie qui va nous enseigner, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseignera, vous conduira dans toute la vérité, vous parlera des choses. Ce n'est pas la maladie. Mais ça m'a toujours épaté de voir qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la grandeur de tout ce qu'ils peuvent obtenir de cette vie en abondance. Ils s'accrochent à la vie qui est venue nous donner, qui aiment Dieu de tout leur cœur. Puis même s'ils pensent que, même s'ils n'ont pas la connaissance des fois que nous avons d'aller chercher notre guérison, d'aller chercher la paix dans nos vies, d'aller chercher la prospérité, et puis même s'ils n'ont pas toute cette connaissance, ils aiment Dieu de tout leur cœur, OK? Ils aiment Dieu. Moi, ils m'épatent parce qu'ils pensent, ils disent, ben peut-être que le Seigneur, il voulait que je passe par là. Mais il aime, mais il aime. Tu sais, Puis moi, ça m'épate parce que je me dis, waouh, où est-ce qu'ils sont allés chercher un si grand amour qu'ils sont capables de passer par-dessus puis penser que Dieu a voulu qu'il passe au travers d'une épreuve puis l'aimer pareil. Tu sais, ça m'épate. Vraiment, vraiment, ça fait des années que je pense à ça. Puis j'ai toujours été impressionnée de l'amour qu'ils ont sincère pour Dieu. Puis l'inverse, ça aussi, ça m'impressionne beaucoup. J'ai tellement vu de gens que lorsqu'il s'est élevé, que je pensais là, qu'il aimait le Seigneur, puis lorsqu'il s'est élevé une épreuve dans leur vie, puis que là, ils ont prié, et puis qu'ils n'ont pas tout à fait eu la réponse à leur prière, bien là, ils ne veulent plus rien savoir, puis ils rejettent Dieu. C'est comme, tu ne m'as pas donné ce que je voulais, je ne veux plus rien savoir de toi. Bye, Charlie. Ça aussi, ça m'impressionne. C'est comme, wow. C'est comme les deux extrêmes. C'est comme s'ils ont aimé plus qu'est-ce que Dieu pourrait leur donner que Dieu lui-même. Puis l'autre extrême, c'est qu'il y a des gens qui pensent que peut-être Dieu permet telle chose, mais il l'aime pareil. C'est vraiment. Puis moi, j'aime un homme, je vais dire son nom, et puis il s'appelle Samuel Plante. Et puis il fait des capsules, puis ça, il appelle ça « Sam parle ». Samuel, Sam parle. Ah, je le trouve au bout, drette là. Juste là. Juste avec son titre de capsule. Lui, c'est pas « inspiration », c'est « ça me parle ». Tu sais, là, je veux dire. Et puis, j'aime ce petit gars-là, OK? Il est logique, il est intelligent, il m'impressionne. Quand que j'ai une capsule que je vois apparaître, je l'écoute. Puis l'autre fois, j'ai écouté l'heure de la bonne nouvelle. Puis ça me parle, il était là, je veux dire Samuel Plante. Je l'ai écouté trois fois. Et puis, il parlait de la vie. Et puis, il a donné un exemple. Parce que je l'écoutais, puis c'est dans ses capsules, je ne l'ai pas vraiment entendu parler qu'il guérit aujourd'hui, il nous prospère, et toutes ces choses-là. Mais il parle de l'amour de Dieu, fait qu'il m'impressionne, OK? Puis il est logique, puis il aime Jésus, là, ça paraît, OK? C'est ça. Puis là, je l'écoutais, et puis il a donné un exemple, puis j'ai compris quelque chose. Hey, c'est le fun, hein? Il a dit qu'il y avait un homme qui faisait des recherches, un scientifique. Puis dans les années 50, l'homme, il avait pris comme un bassin assez profond, puis il avait mis de l'eau dedans. Et puis, il avait pris des rats, puis ils avaient mis dans l'eau. Puis il avait regardé comment de temps ça prendrait, qu'est-ce qui se passerait. Puis les rats essayent de nager, et puis ils ne sont pas capables de monter ces bords. Puis ça a pris peut-être comme un 10-15 minutes, puis les rats, ils étaient à bout de souffle, puis ils sont tous morts. OK? Il a enlevé les rats de là. Il a peut-être changé l'eau, je ne sais pas. Il a remis de l'eau. Il a repris des rats à nouveau, puis il les a mis dans l'eau, encore une fois. Puis là, les rats se débattent. Là, ils se débattent pareil comme la première fois. Mais à un certain moment donné, comme ils sont sur le bord de perdre le souffle, ils prenaient, ils sortaient de là, ils en prenaient soin, ils les nourrissaient jusqu'à ce temps qu'ils aillent bien. Puis quand ils ont tous été réconfortés, renourris, puis ils les ont repris, puis ils les ont remis dans l'eau. Puis là, il a attendu et ça l'a pris quelques journées avant qu'il meure. Puis la logique de cette expérience-là, c'était pour quelle raison les rats sont-ils plus en vigueur puis de se débattre plus longtemps? Et il dit, parce qu'ils ont l'espérance que je vais les ressortir une deuxième fois puis n'en prendre soin. Je l'ai reculé, je l'ai réécouté, je l'ai reculé, je l'ai réécouté, je l'ai reculé, je l'ai réécouté. J'ai dit, voilà la foi que ces gens-là ont. La vie qui est venue nous donner, qui est accompagnée d'une faveur, qui est accompagnée de cette faveur-là, c'est l'espérance que nous avons d'être toujours soutenus, toujours favorisés, toujours pris soin, toujours aidés, toujours secourus. J'ai resté là-dessus depuis 2 semaines, puis j'ai dit, voici la vie qui est venue nous donner. Vous savez, on va dire des fois, le monde autour de nous sont sans espérance. Nous avons l'espérance que même si on patauge longtemps puis on a de la misère, Dieu est avec nous. Puis même si ça n'a pas fonctionné dans une chose, on sait qu'il y a peut-être des choses qu'on a fait qui ont occasionné. Vous savez, la plupart du temps, nous sommes le plus gros problème dans notre vie. Ça, vous le savez. Avec nos paroles, avec nos actions, avec nos décisions. Il y a des décisions, des fois, que les gens prennent qui occasionne un problème. Puis ça aurait été le fun qu'ils ne prennent pas cette décision-là. Puis là, ils disent, le diable est après moi. Non! T'es toi-même après toi. Arrête de mettre la faute sur le diable, tu l'honores pour rien. Tu dis que ses œuvres, ils marchent. Arrête de penser, arrête de se donner de gloire tout le temps. Le problème, il s'appelle ton nom à toi. Mais vraiment, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, voilà. Parce que vraiment, je n'avais jamais dans toute ma vie entendu comme un enseignement sur l'espérance. La foi, oui. Mais l'espérance que nous avons fait qu'on est plus résistant que les autres. Voyez-vous les rats? Des rats, sans même pas d'intelligence. Mais il avait senti un secours venir. Puis juste l'espérance qu'ils avaient les rendait plus résistants que les autres. C'est ce que nous avons. Quand la parole de Dieu dit que Jésus est venu pour qu'on ait la vie, c'est cette vie d'espérance, de savoir qu'il est toujours là pour venir à nos secours, à notre secours. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Fait que si vous voulez écouter un bon petit gars, je vous le dis, c'est capsule. Sam, S-A-M, parle. Sam parle. Allez chercher Sam parle. OK. Je veux savoir, ce petit gars-là, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il reste. Il est marié, il a 2 enfants, il en a parlé, il est cute au bout. Je l'appelle un petit gars, parce que moi, quand ils sont jeunes, 2 enfants, c'est des petits gars. OK? Parce qu'à l'âge que je suis rendu, 72 ans, c'est des petits gars. OK? Merci. Mais vous l'écouterez. Puis il va parler dans des conférences d'ados, hein? Fait que ça serait bon à un moment donné. Eh bien, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. On va tourner à Éphésiens 2. Éphésiens 2. Et puis, Je vais lire le verset 12, Éphésiens 2, 12. L'apôtre Paul, il parle ici, puis il dit, rappelez-vous de quelque chose, là. OK? Et il dit, rappelez-vous, souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là, ça c'est avant Jésus, que vous étiez dans ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. OK? Il dit, souvenez-vous dans ce temps-là que vous étiez sans Christ, autrement dit, sans le moyen du salut. Parce que Christ, c'est mon salut. Amen. C'est lui qui a tout accompli. Vous étiez sans le salut. Vous étiez privés du droit de cité en Israël. C'est la cité céleste. Amen. Celle qui parle dans l'Apocalypse. Amen. Gloire à Dieu. On était privés. Et vous savez que dans Hébreux 11, eux avaient toujours les yeux sur cette cité-là. Un jour, c'est là qu'on va vivre. Amen. On était privés de ça, étrangers aux alliances, parce que l'alliance de l'Ancien Testament fonctionne encore, puis l'alliance du Nouveau Testament est encore basée sur des meilleures promesses. Merci Seigneur. On était étrangers qu'il y avait eu une alliance de fait. On était étrangers à la puissance d'une alliance. Amen. À la puissance d'une alliance qui avait été faite à la croix quand Dieu a fait une alliance à la croix avec son fils Jésus, puis Jésus nous représentait. On est étrangers à ça, là. Parce que, vous savez, c'est quoi une alliance, hein? Quand moi, je me suis mariée, j'ai pris alliance avec mon mari. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à lui est à moi aussi. Non, c'est pas vrai. On a fait alliance, ce qu'il était, je l'avais, puis ce que j'avais, il l'avait. Savez-vous que quand on s'est marié, bientôt 50 ans, quand on s'est marié, nous, dans notre temps, on avait un trousseau. Personne ne sait ce que c'est, hein? Sylvie, elle a parlé de ça à Mélina. Elle a dit, c'est quoi ça, quand elle se mariait? Sylvie a dit ça, c'est parce que tu avais un set de vaisselle, une batterie de cuisine, des ustensiles, des draps, puis des serviettes, OK? Fait que j'avais mon trousseau. Puis j'avais 2000 $ à la banque, il y a 50 ans. Pasteur Réal avait son auto payé, puis il y avait 2000 $ à la banque. On était assez idiots pour acheter nos meubles cash. On n'avait jamais eu de carte de crédit. Fait qu'après ça, quand on a voulu acheter quelque chose à crédit, ils ne croyaient pas qu'on pouvait payer. Et non, on aurait dû garder cet argent-là. Puis acheter nos meubles à crédit. Puis apprendre à payer tant par mois, puis garder notre argent. Ah non, hein? On n'avait pas grand conseil. Mais tout ce qui était à lui était à moi, puis tout ce qui était à moi est à lui. Parce que quand Dieu il a fait alliance à la croix avec notre Seigneur Jésus-Christ qui nous représentait, il disait, tout ce qui est à moi maintenant est à vous autres. Puis tous vos problèmes, je vais les prendre. Toutes vos infirmités, je vais les prendre. Il y a tout un échange qu'il y a eu. On lui donne nos problèmes, il nous donne la paix. On lui donne nos maladies, il nous donne la guérison. On lui donne notre pauvreté, il nous donne sa richesse. Toute une alliance. On était étrangers à ça. Il dit, souvenez-vous qu'avant, vous ne saviez même pas qu'il y avait une alliance qui avait été faite. Vous ne saviez même pas qu'il y avait un salut qui avait été procuré. Vous ne saviez même pas que vous allez vivre dans la cité céleste avec Dieu. Là où il fait l'air 24 heures par jour, ça, j'aime ça. Amen. Il dit, et vous étiez sans espérance. Sans espérance. Tu sais, j'écoute les nouvelles des fois, et puis mon mari pense, j'écoute pas, oui, j'écoute. J'écoutais les nouvelles, puis là, ils disent qu'il y a de plus en plus de ministres, puis de mairesses, puis de maires qui font des dépresses. Il y a de plus en plus, ben oui, hein, ils en parlent, il y en a. J'ai-tu rien que moi qui ai entendu ça aux nouvelles? Mais non, bon, il y en a autre, merci Seigneur. Au moins, on est deux. Et puis, ils font des dépressions. Parce que il y a trop de problèmes. Supposons, exemple, à la mairie. Puis là, ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils n'ont aucune espérance. Ils n'ont rien pour les aider. Là, ils amènent les problèmes à la maison. Là, ça crée d'autres problèmes. Fait que là, ça va mal à la shop. Ça va mal à la maison. Puis là, ils prennent les problèmes de la maison, puis ils les amènent à l'ouvrage, puis ils disent, « Ah là, je ne suis plus capable de dormir. Les enfants, ça va mal. » Puis tout ça. Fait que là, j'ai besoin, je fais un burn-out. C'est fatigant, ça. Mais c'est normal. Ils n'ont aucune espérance. Mais pas nous. Mais Paul, l'apôtre Paul, il dit, « Souvenez-vous! On dirait que vous oubliez que maintenant, vous avez une espérance dans la vie. Vous avez toujours l'espérance d'être secouru. Vous avez toujours l'espérance que Dieu y est là, peu importe ce qui s'élève. Vous avez toujours l'espérance qu'il y a une faveur sur vous autres, que vous êtes privilégiés, que vous avez les bienfaits de Dieu. Souvenez-vous, amen, de cette espérance. » Puis il dit, vous étiez sans Dieu dans le monde, amen. Sans espérance, ça veut dire sans espoir, sans but, sans vision de rien. Tu n'as pas une espérance. Parce que vous savez, c'est même sans la foi. Si tu n'as pas d'espérance, tu n'as pas de foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Mais si tu n'as pas d'espérance, tu ne peux pas avoir la foi parce que tu n'espères même pas. Fait qu'être sans espérance, des fois je regarde les gens, puis je suis obligée de leur rappeler ce que Dieu a fait dans leur vie. J'ai dit, oui, mais tu ne te rappelles pas? Comment Dieu t'a donné cet emploi-là? Oui, c'est vrai. Là, il commence avec le « oui, c'est vrai ». Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils ont deux mains dans les airs et ils disent, « Sais-tu que c'est vrai? » Ben oui! Ben oui! Souviens-toi de l'espérance avec laquelle on peut vivre. On a une espérance de vie. Hein? Des fois, ils vont dire ça, « Ah, plus d'espérance de vie. » Mais moi, j'en ai une. J'ai une espérance de vie. Puis quand j'avais le COVID, puis j'étais après mourir, j'avais plus d'espérance de vie. J'avais encore l'espérance de vie. Parce que Jésus, il m'a donné sa vie. Puis je la prends au sérieux. Pour que j'aie la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Être rempli d'espérance en Dieu, c'est savoir qu'il est là pour venir à notre secours. Amen. Oh, merci Seigneur. Combien de fois dans les psaumes, on a lu... Comme exemple, le psaume 46, verset 2, il dit, « Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Une espérance, c'est un secours qui ne manque jamais. Lui, il est toujours là. Il le dit, « Jamais je ne vous abandonnerai. » Il est toujours là. Il est mon espérance de vie. Amen. Les Israélites, eux autres sont graves. Quand Dieu les a sortis d'Égypte, puis ils ont passé dans le désert, puis Dieu disait, il voulait qu'ils apprennent à regarder à lui. Bon, bien là, ils n'ont rien à boire. Ils vont sûrement regarder à moi, puis je vais lui donner à boire. Mais non! Ils vivaient comme s'il n'y avait aucune espérance, eux autres-là. Là. Fait que là, Dieu il faisait un miracle, puis il disait, « Bon, ben ils vont le savoir pour la prochaine fois que je suis leur espérance. » Là, il voulait manger du pain, il chiolait. Fait que Dieu, il a envoyé des graines sur le terrain, des graines de coriandre. Ça avait le goût de miel, comme j'ai déjà dit. Ça les préparait tranquillement, les amener à la terre où coule le lait et le miel. Fait qu'ils vont manger des petits pains au miel, ils vont s'habituer. Ils chiolent encore. Puis ils ont tellement peur de ne pas en avoir le lendemain, ils se disent, ça va être là tous les jours. Mais ils diront, ramassez-en jusqu'à ce que vous avez besoin pour votre famille. Mais eux autres, ils ont dit, on va en prendre plus au cas où. Ça choque Dieu. Dieu, il est en colère. Et il dit, jusqu'à quand je vais être obligé de les supporter? Ils ne sont pas capables de savoir que je suis leur espérance. Amen. Gloire à Dieu. Ah. Bien, ils n'ont pas réussi non plus, hein? Mais dans le psaume 27, j'aime David. On va tourner au psaume 27. Ça commence au verset 1, puis nous autres, on chantait ça. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte, oh, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Qui connaît ça? Quelques-uns. Après ça, on chante à l'Éternel est le soutien de ma vie. C'est le verset 2. L'Éternel est le soutien de ma vie. Imaginez comment on parlerait jeune aujourd'hui avec ça. Hein? Mais c'est pas grave. Nous autres, on croyait ce qu'on disait. On croyait plus dans les mots que la musique. Amen. Mais ici, David, il dit, l'Éternel, c'est ma lumière puis mon salut. L'Éternel, c'est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Mon espérance est en lui. Pourquoi je sais qu'il mettait son espérance en lui? Parce qu'il dit tout le psaume, puis rendu au verset 13 et 14, il dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Vraiment, David, il dit, « Voyons donc, mettez votre espérance dans l'Éternel. Espérez en lui. Ayez votre espérance en lui. Ça vaut la peine. C'est l'Éternel et ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Mon espérance est en lui. Puis il a toujours été secouru. Il a toujours été capable de faire face à des géants, à des multitudes, à un roi qui veut le tuer, parce qu'il espérait en l'Éternel, parce que son espérance. Puis les gens, comme je vous dis, qui n'ont pas vraiment encore eu la révélation de toute la prospérité que Dieu pourrait leur donner, de toutes les guérisons qu'il pourrait faire, il y a une chose que j'ai remarquée maintenant, c'est qu'ils ont une espérance en l'Éternel. Ces gens-là, c'est comme s'ils le savent qu'il est toujours là. Ils le savent que Dieu va les aider, que Dieu va en prendre soin, que Dieu est avec eux, qui peut être contre eux. Ils ont une espérance. Je comprends davantage ces gens-là. Parce que trop de gens, comme j'ai dit, mettent juste leur foi sur, « Hey, la prospérité, je te dis que je prospère en Dieu. J'ai donné 1 000 $, je vais en avoir 100 000. » Oui, tu vas en avoir 100 000 si tu y crois, c'est officiel. On récolte toujours plus que qu'est-ce qu'on a semé. Tu prends un pépin de pomme, tu le mets dans la terre, tu récoltes un pommier, pas folle. Ce qu'on sème, on récolte. Puis Jésus a dit lui-même, « Tu peux avoir 20 fois, 40 fois, 100 fois, même infiniment au-delà. » Mais c'est-tu plus ça qui est important ou d'avoir ton espérance en Dieu? Parce que si c'est plus ça qui est important, ça veut dire quand ça, c'est pas là, bien, tu fais comme plusieurs. Il ne m'a pas donné ce que je voulais, mais je ne vais plus rien savoir de Dieu. Ça me brise tellement le cœur de voir que ces gens-là, vraiment, ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu, il est bon. Puis des fois, tu ne l'as pas eu, puis c'est peut-être à ton avantage. Puis c'est peut-être toi le gros problème dans l'affaire, puis c'est pas Dieu pantoute. Il est obligé de passer par-dessus ta grosse tête folle. Amen. Tu sais, il y a des gens qui ont dit toute leur vie, « Moi, je le sais que je ne vivrai pas passer 50 ans. Mon grand-père est mort à 149. » Mon oncle est mort à 51, puis mon père est mort à 52. Je le sais que moi, je vais être pareil comme eux autres. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Bien, quand il y a eu 50, il est mort. Ce même monsieur-là, là, il filait pas quand il avait 50 ans. Il s'est mis à dire qu'il avait, il avait la misère à respirer, puis il avait un point dans l'estomac, puis tout le kit. Fait qu'ils l'ont emmené à l'hôpital. Puis lui, il est sûr qu'il va mourir. J'ai 50 ans, je pareil comme mon père, pareil comme mon oncle, pareil comme mon grand-père, puis ils sont tous morts à peu près à cet âge-là, fait que je dois être en train de mourir. Puis il est mort dans la nuit. Puis les médecins, ils ont dit, on ne comprend pas qu'il soit mort, c'était même pas le cas, il faisait une indigestion. Le monde, ils vont dire, Dieu, il est venu le chercher. Hey, moi, là, donnez-moi une claque à pleine face, là, j'aime mieux ça que d'entendre des conneries comme ça. Premièrement, Dieu ne fait pas mourir personne. Dieu, c'est la vie. Il donne la vie. Anyway, on ne rentre pas là-dedans. Oh, gloire à Dieu. Des fois, je regardais Joseph dans la parole de Dieu. Vous savez, Joseph, dans l'Ancien Testament, haï par ses frères, il a été jeté d'un puits, il voulait le faire mourir. Puis après ça, ils ont eu une bonne idée. On va faire écrire à Paix qui est mort. On va dire à Paix est mort. On va salir sa belle petite robe, toutes sortes de couleurs. Et puis on va le vendre comme esclave. On va se débarrasser. Ça allait de pire en pire, lui, dans sa vie. Les choses allaient de pire en pire. Mais il avait la faveur de Dieu sur lui. Parce que même comme esclave, il était choyé. Après ça, il était accusé faussement, il était jeté en prison. Même en prison, il était choyé. Son espérance était en Dieu. Son espérance était en Dieu parce que même quand la femme de Potiphar a voulu le faire pécher, il dit, « Je ne serai jamais capable de faire ça. Hey, je ne ferai jamais ça à Dieu. Dieu, il est avec moi. » Le Dieu de mes pères, wow! Sa confiance, son espérance était en Dieu. Mais il s'en est sorti plus que vainqueur. Je répète, il s'en est sorti plus que vainqueur. Parce que quand il est sorti de là, il est devenu le bras droit de Pharaon. Il n'y a pas rien qui se faisait sans qu'il lève le petit doigt. Amen! Son espérance était en Dieu. On va terminer avec Hébreux 6. Hébreux 6. Et puis, c'est dans ce même chapitre qu'ils nous disent d'imiter les hommes de foi. Puis, j'avais commencé à lire au verset 17. Il dit, « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. » Il a donné sa parole. « Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Il dit, Dieu, il ne peut pas mentir. Il est avec nous, puis ce qu'il dit, il fait. Il dit, le plus grand encouragement qu'on a pu avoir, c'est de saisir l'espérance qui nous était proposée. Vraiment, quand Jésus, quand Dieu lui a dit, « Je place devant toi la mort et la vie, choisis la vie. » Il nous dit, « Choisis l'espérance. » Choisis de vivre avec cette espérance que je suis là avec toi, que je pourvois, que je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit, « Ce qui nous était proposé, saisir l'espérance qui nous était proposée. » Puis il dit, « Cette espérance, nous la possédons comme l'ancre de l'âme. » Sûre et solide, elle pénètre au-dedans du voile, puis là, il continue avec Jésus qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et il dit, l'espérance, quand tu as l'espérance en toi, ça devrait être ancré dans ton âme. Dieu va prendre soin. Dieu, il est là. Dieu, il m'aime. Dieu pourvoit. Je vais m'en sortir parce que Dieu est là. Je voulais juste aujourd'hui qu'on réalise vraiment ce qui nous a été donné. La plus grande chose qui nous a été donnée, ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas la prospérité, même si ça en fait partie. Je suis prospère, puis je vis la guérison de Dieu. Mais la plus grande chose que Dieu nous a donnée, c'est d'avoir de l'espérance dans le cœur. Que ça soit ancré dans notre cœur, d'avoir toujours l'espérance que Dieu existe, que Dieu y m'aime, que Dieu prend soin, que Dieu est fidèle. Puis il dit, il y a deux choses immuables qu'on devrait savoir, c'est que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit est vrai, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité va vous rendre libre. Amen. Fait que je termine en disant ceci. C'est merveilleux de vivre, sachant à qui on appartient, sachant que Dieu ne ment pas, sachant qu'il est toujours là, jamais nous abandonnera, sachant qu'il vit éternellement et que nous vivrons avec lui éternellement. C'est merveilleux de vivre, sachant que l'on n'est pas seul, mais qu'il prend soin de nous comme si on était les seuls. Vous n'avez jamais pensé à ça? Quand Dieu m'a donné cette phrase-là, vous n'avez jamais pensé à ça qu'en même temps, chacun de nous, après-midi, on peut demander toutes des choses différentes à Dieu. Chacun de nous. Chacun de nous, on s'arrête et on demande quelque chose. On sait qu'on n'est pas seul quand on a Dieu, puis il agit avec nous comme si on était les seuls. Des fois, je me dis, comment il fait pour prendre soin de mes besoins quand que quelqu'un en Afrique qui est après lui demander autre chose, puis en Chine qui est après lui demander autre chose? Merveilleux. Réfléchissez sur cette phrase. C'est merveilleux de vivre sachant qu'il ne nous a pas laissés seuls, mais qu'il agit avec nous comme si on était les seuls. C'est merveilleux de vivre sachant que l'on a trouvé et qu'on est favorisé, sachant que nous avons l'espérance et une consolation continuelle dans l'âme. Amen. On va se lever debout, on va confesser de notre bouche cette espérance que nous avons maintenant parce qu'on a compris le salut. Amen. Combien de vous êtes contents d'avoir une espérance dans la vie? Puis pas une espérance dans des choses incertaines. Pas une espérance dans l'argent ou dans ton travail, mais une espérance en celui qui est certain, en celui qui prend soin continuellement, qui est toujours là. C'est merveilleux. Mon espérance est en lui. On va confesser le Seigneur Jésus. Dites avec moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est mon espérance. Il est le bon berger. Il a donné sa vie pour que j'aie la vie. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Amen.